Radio Okapi. Okapi.
Pour participer à Okapi Service, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Envoyez vos SMS et messages audio sur WhatsApp au 099 706 99 40. Bienvenue également sur la page Facebook du magazine Okapi Service.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Merci à vous tous qui nous écoutez sur www.radiookapi.net. Eh bien, dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler de la promotion de l'emploi des jeunes. Comment promouvoir l'emploi des jeunes? Eh bien, l'emploi des jeunes, particulièrement de la jeune fille, demeure un problème crucial en République démocratique du Congo. Après les études universitaires, de nombreux jeunes se retrouvent au chômage, faute d'opportunités d'emploi. Par ailleurs, l'exigence des 3 à 5 ans d'expérience dans les ONG et organisations internationales décourage plus d'un. Conséquence, ces jeunes licenciés se transforment en vendeurs de crédits, en tenanciers des cabines téléphoniques ou se débrouillent tant bien que mal pour survivre. Alors, quelles sont les stratégies à mettre en place pour promouvoir l'emploi des jeunes et l'autonomisation de la femme? Eh bien, on en parle dans cette deuxième partie de l'émission Okapi Service avec Monsieur Jean-Robert Issifoua Bokoumbé, expert en matière d'emploi et chef d'entreprise. Jean-Robert Issifoua Bokoumbé, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Okapi Service.
Merci.
Alors, dites-nous, comment promouvoir l'emploi des jeunes et surtout l'emploi de la jeune fille?
Bon, jeune fille et jeune garçon...
D'abord, faisons un état des lieux de la situation. Ouais, Comment se présente la situation aujourd'hui de l'emploi dans notre pays?
Bon, la situation de l'emploi dans notre pays, elle est comparable à ce qui se passe actuellement un peu partout en Afrique, pour ne pas parler du monde. On est dans la période pandémique depuis plus d'une année. Maintenant, les entreprises se ferment et d'autres sont en difficulté, existent, mais continuent à fonctionner. Elles sont opérationnelles, mais elles sont en difficulté. Au Congo, la question du chômage, de demandeurs d'emploi ne date pas d'aujourd'hui, mais elles ne trouvent toujours pas la solution. Ce n'est pas seulement pour les jeunes, c'est pour toutes les catégories de personnes en âge de travailler. Mais si nous avons ciblé les jeunes et les femmes, c'est parce que c'est une catégorie de population qui constitue en fait finalement l'avenir de notre pays. C'est une catégorie de population assez sensible et donc nous nous intéressons particulièrement à celle-là parce que chaque année, comme vous le savez, il y a des milliers de jeunes garçons, jeunes filles qui entrent dans le marché de l'emploi après leurs études. Et pour ceux qui ne terminent pas avec le système d'enseignement au Congo, il y a des niveaux où les jeunes se retrouvent en difficulté soit de trouver des stages, ce qu'ils appellent des stages professionnels, quand ils ont terminé leurs études de graduat, quand ils ont terminé le graduat. Après le graduat, il faut aller plus loin. Je crois qu'on leur donne 2 ans pour trouver un stage professionnel. Et pendant cette période, il y a beaucoup qui restent au chômage, qui ne trouvent pas de stage professionnel et qui restent au chômage comme demandeurs d'emploi. Et ceux qui arrivent à franchir cette étape et terminent leurs études, arrivent à décrocher le diplôme de licence, eux aussi, après leur diplôme de licence, ont du mal à accéder à l'emploi, au premier emploi, en tant que primo arrivant dans le monde du travail, parce que...
Parce que l'État congolais n'engage pas.
Il n'y a pas que l'État congolais.
Oui.
Il y a d'abord les entreprises. L'État congolais, je pense que l'État congolais a plutôt le rôle de préparer l'environnement de l'emploi. en termes législatifs, mais également dans l'organisation, dans les règlements qu'il prend, dans les relations qu'il a avec les entreprises, dans les facilités qu'il accorde aux entreprises pour qu'elles soient en mesure d'embaucher. Mais c'est surtout les entreprises qui sont les recruteurs des demandeurs d'emploi. Donc voilà.
Bien. Alors donc on retient que la situation n'est pas très très bonne par rapport à l'emploi. Beaucoup de jeunes gens se retrouvent au chômage après leurs études universitaires. Alors comment aujourd'hui arriver à faire face à cette situation, promouvoir l'emploi des jeunes, surtout de la jeune fille? Avant d'aller plus loin, on va accueillir un auditeur qui nous appelle de Kananga. Il s'agit de Merli. Bonjour Merli. Merli, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, avant de poser la question, je voudrais un peu intervenir dans le sens que la situation ou la thématique dont vous avez soulevé nous intéresse plus, nous les jeunes licenciés. L'État congolais doit supprimer cette exigence-là, dans le sens que comment quelqu'un qui vient de terminer ses études parvient-il à avoir des expériences de 3 à 5 ans s'il n'est pas engagé ou s'il ne travaille pas? Donc, cette exigence, je demanderai à l'État congolais de la supprimer de façon que l'État puisse essayer de diminuer un peu les taux de chômage dans notre pays. Parce que si l'exigence est maintenue telle que nous sommes en train de la vivre maintenant, vous trouverez qu'il y a plus de chômeurs, de jeunes licenciés qui se donnent à vendre des unités, d'autres entrent dans des commerces ambulants, donc chose qui n'est pas bonne. Alors je voudrais que l'invité puisse nous donner des stratégies et puisse aussi nous donner des techniques pouvant abolir cette exigence afin de permettre aux jeunes de pouvoir travailler. Parce que, si vous remarquez très bien, nos vieux papas qui ont occupé des postes là il y a beaucoup d'années, et d'ici là ils vont vieillir et ils vont mourir. Comment est-ce que l'exigence d'expérience pourra aussi faire marcher la gestion de la chose publique si les jeunes ne sont pas retenus ou soit ne sont pas engagés pour faire continuer les services de l'État? Donc, cette exigence marche un peu contrairement avec ce que nous sommes en train de vivre sur le terrain.
Merci Merli. Maître Gilbert, vous êtes Massoudi, vous êtes à Kindu, dans la province du Maniema. Bonjour. Maître Gilbert, bonjour. Quelle est votre préoccupation?
Oui, ma préoccupation est celle-ci. Pour promouvoir bien l'emploi aux jeunes, il fallait que l'État congolais faisait un effort d'appeler les différentes entreprises internationales et les zones GD et les zones G pour faire les partenariats avec eux pour que les jeunes se retrouvent avec l'emploi. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui terminent leurs études, ils n'ont pas d'emploi. Mais si les entreprises qui se trouvent en République démocratique du Congo, vous allez voir, il y a un peu la diminution du chômage en République démocratique du Congo. Donc, je demande au gouvernement central et aux autorités d'appeler les différentes entreprises pour que les jeunes se retrouvent avec le travail.
Bien, merci Maître Gilbert depuis Kindu. Bien, Monsieur Jean-Robert, vous avez la parole.
Écoutez, je remercie les auditeurs et notamment le premier auditeur de Kananga qui se désole, se plaint avec raison des exigences qui sont d'expérience professionnelle qui sont réclamées aux primo-arrivants dans le monde du travail, aux jeunes qui accèdent pour la première fois et qui cherchent à accéder pour la première fois au travail. C'est vrai qu'il a raison, mais je pense que, comme on disait tout au début, c'est pas seulement la question de l'État. Évidemment, l'État est là pour légiférer, pour mettre en place une organisation qui facilite les jeunes à trouver du travail. Mais les exigences professionnelles, mais on sait bien que nous sommes dans un pays de libre marché où les entreprises fonctionnent librement et c'est vrai que nous tous, toutes les entreprises, on se réfère au code du travail et à une réglementation, mais le code du travail n'interdit pas aux entreprises d'exiger l'expérience professionnelle. Ça, c'est la première chose. Il ne s'agit pas vraiment du problème de l'État. Il s'agit, évidemment, l'État doit s'y intéresser. Parce qu'il faut que l'État trouve, parce que c'est lui l'autorité suprême. Mmh. Donc, il faut qu'il trouve des solutions lorsqu'il y a des difficultés. Donc, on ne peut pas le mettre de côté.
Oui, mais M. Jean-Robert...
Mais ce que je voulais dire, pour répondre, pardonnez-moi, ce que je voulais dire, c'est que les entreprises, je pense que je peux en témoigner, les entreprises, beaucoup d'entreprises, depuis plus de 5 ans maintenant, se sont résolues quand même, quelque part, à engager, à recruter, à donner la chance, si je puis dire. Je crois que c'est la bonne formule. À donner la chance aux jeunes primo-arrivants à trouver du travail, malgré le fait qu'ils n'ont pas d'expérience professionnelle au départ. Alors, comment ont-elles fait pour donner cette facilité aux jeunes? Eh ben, si nous prenons le cas des banques, par exemple, dans notre pays, beaucoup de banques ont eu l'idée de créer ce qu'elles ont appelé l'académie banking. Et dans l'académie banking, on recrute essentiellement, si pas dire exclusivement, les jeunes qui n'ont pas d'expérience professionnelle. En fait, il faut pas avoir une expérience professionnelle pour accéder à l'académie banking. Or, si vous accédez à l'académie banking, c'est une préparation, c'est une étape de préparation pour que demain, tu puisses accéder, le jeune puisse accéder à l'emploi. Alors, la difficulté, c'est quoi? C'est que, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque quelqu'un va chercher du travail, il va répondre à un besoin, à une difficulté que rencontre l'entreprise. L'entreprise n'engage pas, contrairement à l'État, l'entreprise n'engage pas pour régler le problème de chômage. Non.
C'est par rapport à un besoin, on a besoin.
C'est l'État qui engage.
Oui.
Hein, pour aider,
pour résorber le chômage,
pour résorber le chômage, pour aider le citoyen à ne pas rester sans emploi, à trouver du travail, à participer au développement, à devenir un acteur économique. L'entreprise engage pour régler un problème parce que il y a un besoin
et pour faire des bénéfices, bien entendu.
D'ailleurs, nous, quand on va chercher, nous les sous-traitants, quand on va chercher une collaboration avec les entreprises, on leur dit bonjour monsieur, bonjour, écoutez, moi je suis monsieur tel de telle société, je suis venu vous voir pour connaître vos besoins en matière d'emploi. Les besoins, ils doivent se trouver dans les besoins, et lorsque l'entreprise se trouve dans le besoin, ça veut dire qu'il se trouve un peu quelque part en difficulté et il a besoin de quelqu'un qui lui apporte quoi ? La solution.
En passant, Monsieur Jean-Robert, vous êtes passionné par cette question de l'emploi des jeunes. Et d'ailleurs, vous avez une structure, une entreprise qui s'appelle SCS, qui s'occupe de l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, près de 4000 jeunes ont pu trouver du travail au Congo grâce à votre structure. Parlez-nous de votre expérience dans ces domaines.
Est-ce que... Je vais y revenir, hein. On est encore là. Vous m'avez donné le temps que je vais passer.
Allez-y.
Mais je voudrais quand même répondre de manière précise pour qu'ils ne soient pas frustrés, hein.
D'accord.
Répondre aux deux auditeurs. Je terminerai en disant que vraiment, parce que je voudrais que mon passage à la radio puisse apporter une valeur ajoutée. Je veux pas passer à la radio pour passer à la radio et me faire entendre et faire la démonstration de la connaissance de la langue française. Hein, ça m'intéresse pas. Je voudrais que les gens qui nous écoutent après
soient édifiés par ce que vous allez dire.
Donc que je leur apporte un petit plus. Et donc c'est pour ça que je dis aux candidats qui vont chercher du travail, ils doivent être à l'aise. Parce que quand il se présente devant un recruteur, le recruteur, il est aussi, il est en position d'attente. il n'est pas en position de force. C'est vrai qu'il est en position de force quelque part parce que c'est lui qui va engager, mais en même temps, il a besoin d'une compétence, d'une valeur ajoutée. Et si vous n'avez pas d'expérience, on revient sur la question de l'expérience, si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous ne réglez pas le problème de l'entreprise. D'où la nécessité de la formation, d'où la nécessité de la préparation avant que la personne n'accède réellement dans l'entreprise. Pour aller plus vite et
les jeunes
répondre.
Se disent souvent, mais cette expérience-là des 5 ans, où est-ce qu'on l'aura? Où est-ce qu'on va la trouver, monsieur
Jean-Robert? Mais justement, c'est pour ça qu'il y a ces étapes-là. Mmh. Il y a l'étape de la formation. Hein, par exemple, si vous passez par les agences, les bureaux de recrutement, comme le mien ou les autres, nous sommes nombreux, on peut vous préparer à une formation qui vous permet, comme on dit au Congo, la remise à niveau ou la mise à niveau pour vous permettre de se conformer au profil demandé ou aux exigences faites par les entreprises pour vous recruter. Et on a parlé de Academy Banking.
Mmh. Au niveau des banques.
C'est une étape de préparation. Parce que là, on va vous donner l'essentiel de formation qui va vous permettre de compléter la base que vous avez acquise à l'université pour pouvoir être à mesure de travailler de manière efficiente. Pour répondre à Maître Gilbert de Kindou, promouvoir, permettre que l'État soit en partenariat avec les entreprises internationales. Il a parlé des entreprises internationales pour donner du travail. Bah, écoutez, moi, je ne peux que être d'accord avec lui. Moi, je représente pas l'État, mais ce que je peux lui dire, c'est que il y a déjà des structures comme ça qui existent. Si vous prenez la FEC, par exemple, la Fédération des entreprises du Congo. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont dedans et la FEC travaille en étroite collaboration avec l'État. Moi, je pense que c'est vrai le problème de l'État. L'État doit être effectivement en contact avec avec les entreprises. Je pense qu'il l'est, notamment au travers la FEC et d'autres structures. Mais l'État doit également faciliter. L'État doit surtout se pencher sur la question de comment faciliter la tâche aux entreprises pour que l'engagement d'un demandeur d'emploi ne pèse pas trop sur elle et ne l'empêche pas, ne l'engloutisse pas pour que demain et puisse l'entreprise soit en mesure d'embaucher encore un peu plus des gens. Cette souplesse-là et cette collaboration-là entre l'État et les entreprises, c'est ce que nous attendons le plus. Nous demandons pas l'argent, mais nous demandons des souplesses dans certains domaines. Regardez, aujourd'hui, on traverse une période extrêmement difficile de la pandémie. On entend tous les radios, les télévisions, on voit dans le monde entier, avec les réseaux sociaux, etc., on voit comment d'autres pays, que ça soit en Afrique, hein, je parle pas de l'Europe, hein, qui apportent des aides substantielles aux entreprises pour qu'elles traversent
un moment difficile.
Ces aides ne sont pas nécessairement à caractère financier. On sait très bien que les économies sont difficiles dans cette période pour tout le monde, mais il y a d'autres facilités qui peuvent aider les entreprises à se sentir à l'aise pour mieux recruter les gens. Je pense que c'est comme ça que je peux répondre à Maître Gilbert.
On a trois autres auditeurs en ligne.
Voilà.
Jean Calvin de Kananga, David de Kalemi et Zahim Boyo de Kananga. Jean Calvin, bonjour. Jean Calvin, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
Oui, ça va, merci pour la parole que vous venez de m'accorder. J'ai ne fût-ce qu'une seule question que je dois poser à l'invité. Mais avant de poser la question, je vais manifester l'inquiétude que nous avons ici au Kassa Central. On a du mal à écouter la radio Kapi de 6h jusqu'à 7h. Donc les journaux des 7h, 8h nous passent, nous sommes obligés d'attendre jusqu'à 9h pour écouter les journaux. C'est tout à fait difficile comme on écoutait la radio au Capu auparavant. Mais là, ma question est la suivante. Je vais poser à l'invité, comme il a parlé souvent. comme l'État a dit, si c'est un critère qui demande que non, les jeunes qui viennent de terminer les études doivent faire 5 ans pour avoir des expériences, pour accéder dans les entreprises publiques. Maintenant, comme nous venons de terminer, nous ne sommes pas engagés, comment nous pouvons avoir des expériences alors que nous n'avons pas l'accès d'entrer dans une entreprise pour commencer à travailler. D'où provient les alors nous ne sommes pas engagés. C'est ça ma question.
Merci. David de Calémy, bonjour.
Bonjour, Daniel Kachama. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre préoccupation, David?
Ok, moi j'aimerais poser juste une question de savoir à l'invité.
Oui.
Ici à Calémy, nous avons un problème. Une fois on cherche les employés ou les travailleurs, on exige d'avoir les expériences même de 5 ans, 10 ans. Maintenant, moi, j'ai un peu de terminer les études.
Vous n'avez pas 10 ans d'expérience, c'est que... Ah. D'accord.
En plus de cela, les jeunes d'aujourd'hui, il faut demander les expériences pour passer même au texte, il faut corrompre, il faut demander l'argent, soit si tu n'as pas d'argent, on va t'exiger à une soumission. Si tu ne réponds pas directement, on va t'écarter, soit tu donnes l'argent, soit le salaire, on va diviser par là avec celui qui va te recevoir. Une fois vous refusez directement, vous êtes écarté. Maintenant, d'où j'aurai cette expérience, c'est ça la question que je pose à l'invité.
Merci David de Calémy. Esaïe Mboyo de Kananga, bonjour.
Oui, bonjour monsieur les journalistes et à l'invité, pourquoi pas aux auditeurs de la fréquence de la paix, la radio qui fait la fierté en République démocratique du Congo.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Esaïe?
Oui, merci beaucoup. Je suis tellement content d'écouter aujourd'hui un bon sujet vraiment qui nous concerne, nous les jeunes. J'aimerais vraiment faire un défi à tous les jeunes, afin qu'on puisse un peu participer à ce sujet, parce que c'est un sujet qui nous concerne. En fait, moi, je viens de terminer les graduats l'année qui vient de passer ici. Je vous rassure, comme ici au Kasaï Central, c'est presque dans tous les bureaux, c'est les vieux papas qui sont là. Est-ce que je pose un peu la question à l'invité. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen pour que les papas là, qu'on puisse aussi leur donner même
les envoyer en retraite. Les envoyer en retraite.
Oui, les envoyer en retraite pour que nous les jeunes qui viennent aussi de terminer, nous puissions aussi avoir même. Un bon place que nous pouvons aussi nous retrouver. En plus, est-ce que ici il y a d'autres pays, si vous êtes arrivé en G3 tel que nous sommes les gradués tel que nous nous retrouvons, oui. C'est fini, le gouvernement peut te prendre en charge. Exemple, je donne un pays ici, l'Afrique du Sud, qui vient de prendre l'indépendance après la République du Congo, après notre pays. Si vous arrivez là et vous êtes en sixième, on ouvre un petit compte dans votre, sous votre nom, vous recevrez un petit rien jusqu'au moment où vous arrivez en G3 ou LD. Mais comment au Congo, c'est toujours les vieux papas qui nous servent, qui sont là pour servir les fils que le pays. Ils sont là, ils dorment même au bureau, ils manquent même la force de signer ou de travailler. Maintenant, j'avais un peu des inquiétudes, monsieur les journalistes. Je pense que je ne suis pas un intervenant, je suis aussi un journaliste professionnel parce que j'ai fait aussi le journalisme, mais nous écoutons comme pour notre pays, si c'est votre radio que nous écoutons. Ici au Kasaï Central, même les dialogues, on ne vous écoute pas, même les émissions ici, les indifférents, on ne les écoute pas, on ferme la radio à 20h. Vraiment, si vous demandez ça, nous pouvons aussi nous retrouver sur Kasaï Central.
Merci. C'est noté. Votre message par via les responsables techniques de la radio vont s'en occuper. François, vous êtes à Kolwezi. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Et bonjour à l'invité ainsi que les auditoires.
Quelle est votre question, François, par rapport à l'emploi des jeunes?
Vraiment, j'aimerais que notre invité puisse nous parler. On n'arrive pas à comprendre dans notre pays quelqu'un qui fait pendant 5 ans d'université, mais on lui demande, lorsqu'il cherche un emploi, 5 ans d'expérience. Mais pendant ces années où il était à l'école, il devrait avoir cette expérience où et les gens qui travaillent dans ces entreprises, ils trouvent ces expériences comment et ils étaient engagés par quels moyens lorsque lui n'a pas su avoir ces expériences qu'il était à l'école. C'est ça ma préoccupation.
Voilà, c'est la même question qui revient. Merci François de Colézy. Monsieur Jean Robert, à vous la parole.
Merci, mon cher journaliste. J'aimerais quand même donner une précision. Je suis impressionné par l'intérêt des auditeurs hein, sur la question.
Sur la question de l'emploi.
Et c'est très bien comme ça. Ça voudrait dire que quelque part, je suis en train d'atteindre mon objectif. Parce que si je suis aujourd'hui invité à la radio Capi, c'est parce que SCS, ma société, qui est une agence de gestion de ressources humaines, comme on dit assez communément ici au Congo, une société de sous-traitance, c'est parce que nous sommes en train d'organiser le 15 avril un événement important qui va concerner l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Et pour ce faire, nous avons invité les grands chefs d'entreprise de notre pays, certains organismes internationaux, les ambassades qui sont aussi impliqués dans la question de recrutement qui donne des bourses, des facilités pour la poursuite des études ou des facilités aux jeunes. Et donc c'est pour cela que je suis là, justement pour échanger avec les concernés et parce que le 15 avril, il y aura des jeunes qui vont parler directement à ces chefs d'entreprise le jour de cet événement, qui vont s'adresser à eux et certains chefs d'entreprise qui sont là auront à répondre à leurs questions. Mais je voulais avant cela, justement, sensibiliser tout le monde. Je veux dire que ça soit les concernés, à savoir les jeunes demandeurs d'emploi et les femmes à la recherche d'autonomisation, d'activités créatrices d'emploi ou de richesses, et aussi les entreprises à les sensibiliser sur cette question. Et là, je vois que c'est vrai, on a touché à l'essentiel. Et là, je réponds maintenant aux différentes questions. Je commence par la question, la préoccupation de Jean Calvin. C'est vrai que moi, je trouve ça un pesanteur, plus ou moins, qui me paraît, que moi, je pense qu'on peut alléger. C'est un pesanteur qui pèse sur la condition qui est posée. Et l'exigence qui est
cette
demandée.
Cette exigence des 5 ans d'expérience. Ouais.
Aux jeunes, non, pas. Lui, il a parlé de stage professionnel. Ça veut dire que quand tu termines le graduat, tu ne peux pas poursuivre immédiatement tes études pour aller à la licence. Tu dois prendre une année ou deux ans, je pense, hein, d'après les explications qu'on m'a données.
Oui, allez-y.
Tu ne peux pas poursuivre tes études immédiatement sans passer par la recherche de stage professionnel. Et donc, si tel est le cas...
Allez-y, continuez.
Si tel est le cas, il faudra que, là, vraiment, ça relève de la responsabilité de l'État. Parce que c'est l'État qui a posé cette condition aux jeunes étudiants. Si tu es... Si tu arrives au graduat, avant d'accéder en licence, tu dois passer par un stage professionnel. Mais si l'État n'organise pas les choses, faut permettre aux jeunes de trouver là où faire ou accéder au stage professionnel, les jeunes sont jetés à la pâture.
Généralement, les établissements organisent des stages académiques
non.
Pendant la formation.
Oui, mais ça veut dire que... Mais, il faut voir comment ça se passe partout dans le monde. Je vais dire, il doit y avoir une réglementation. Parce que si l'État ne réglemente pas, n'organise pas les choses, n'arbitre pas Le jeune ne pourra pas obliger l'entreprise à l'engager, à le prendre en stage professionnel. Et donc, il faut que les choses s'organisent déjà. Pendant que l'étudiant est sur le banc de l'école, il faut que, à un moment donné, avant qu'il ne termine son graduat, il soit déjà en contact avec, ou il sache déjà à quelle entreprise il va y aller pour commencer son stage professionnel. Pourquoi? Mais parce que au départ, il y a toute une organisation qui est mise en place pour que on arrive à cela, pour que le jeune arrive à trouver déjà son entreprise dans laquelle il va. Mais cette organisation, c'est pas à lui de le faire, ça revient à l'État d'abord. Et donc je passe à la question de monsieur David de Kademi, qui est revenu sur la question de l'expérience professionnelle, mais lui, il a rajouté la question de la corruption, etc. Bon, ça relève pas de moi, mais c'est très bien qu'il en parle à la radio Okapi. Je crois que tout le monde est en train de suivre. Les gens concernés sont en train de suivre.
Il y a des entreprises aujourd'hui pour vous engager, on vous demande de l'argent. Ben
là, c'est ça. Vraiment, moi, je réponds pas à ces questions.
Ouais.
Les responsables sont en train de nous
suivre.
Écouter, c'est à eux d'en prendre charge. Mais en ce qui concerne l'expérience professionnelle, on en a parlé. Je pense que ce qu'il faut retenir sur la question de l'expérience professionnelle, c'est d'abord le fait que l'entreprise, lorsqu'elle cherche à engager, c'est qu'elle se trouve en difficulté. Elle a besoin d'une solution, de quelqu'un qui apporte une réponse à sa difficulté, ou que elle a besoin de renforcement. Elle veut renforcer, comme on dit maintenant, booster les jeunes, hein, c'est le langage de vous, les jeunes, hein. Quand l'entreprise veut booster ses activités,
oui,
elle a besoin des compétences supérieures ou spécifiques, alors elle engage. Ça veut dire que il faut que tu viennes avec une valeur ajoutée. Il faut que tu viennes avec une réponse, avec une solution.
Tu viens pas pour si tu n'en as pas,
d'où la demande de l'expérience professionnelle. Alors, la solution à la question de l'expérience professionnelle passe par la formation. Et cette formation peut à la fois être organisée en premier par l'État, parce que l'État, c'est toujours lui le premier responsable de tout ce qui se fait dans ce pays, comme partout dans le monde. C'est pas le cas du Congo, hein. Je veux dire, l'État, son rôle, c'est ça. C'est d'aider la population de son pays, quel que soit l'État en question. Et donc, c'est à l'État de voir comment mettre en place des structures de formation, des structures d'intermédiation qui vont permettre aux jeunes d'acquérir une formation adéquate qui corresponde aux exigences des entreprises qui cherchent à embaucher.
Et cette formation-là, ça s'est fait au sein des entreprises.
Bon, ça c'est la relation que l'État doit avoir. Je crois que quelqu'un a parlé avant ça, a parlé de contacts et des relations que l'État devait avoir, hein, monsieur maître Gilbert de Kindou. Les relations que l'État devait avoir avec les entreprises. Je pense que c'est à l'État de voir comment organiser cela, mais le privé le fait aussi. Par exemple, nous les sous-traitants, nous le faisons. Moi, je travaille, et ma société SCS travaille avec les banques. Nous avons une prédominance d'activité dans le secteur bancaire. Mais moi, avant d'envoyer quelqu'un à la banque, cette personne, nous, on la forme d'abord. Hein, par exemple, pour un compteur de billets de banque, nous travaillons avec la masse de notre population, c'est vraiment les personnes qui sont au début de la corde. Alors on a des compteurs, on a des inspecteurs, on a des ramasseurs, ce qu'on appelle les gens qui font le ramassage du fond. On a des caissiers qui travaillent au front office dans les banques. Tous ces gens-là, avant de les envoyer à la banque,
nous
leur donnons la formation. Il y a des actions de formation qui s'organisent. à leur intention. C'est gratuit en plus, même si nous ne recevons aucune subvention de l'État, aucune aide pour cela. Mais nous préparons toutes ces personnes avant d'accéder.
La question de l'emploi intéresse beaucoup les jeunes. J'ai encore trois auditeurs en ligne. Baudouin nous appelle des Béni. Maître Edmond est à Guémena et Tamboué nous appelle également des Béni. Baudouin, vous êtes à Béni. Bonjour. Baudouin, bonjour. Baudouin, vous êtes là? Bien, il n'est plus là. Nous parlons de la promotion de l'emploi des jeunes. Maître Edmond de Guémena, bonjour.
Bonjour, M. Jody. Bonjour, l'invité.
On vous écoute.
Oui, merci, M. Jody. J'ai bien suivi l'invité à propos de ce sujet sur l'emploi des jeunes. J'espère bien que, en suivant l'invité, il fait vraiment allusion au secteur privé, lui-même étant du secteur privé, et c'est tout à fait normal. Mais moi, je voudrais ici rappeler que le problème de l'emploi dans un pays, c'est un problème, une responsabilité d'abord de l'État. Quand on parle de l'emploi des jeunes, l'emploi de la population, on voit d'abord l'État. C'est-à-dire que chez nous, c'est l'État congolais. Et ici, moi, je pense que dans ces pays ici, nous avons des lois, et bien sûr la Constitution, bien sûr, qui garantit l'égalité d'accès à la fonction publique. Nous avons également une loi, bien sûr, qui organise la fonction publique. Et vous allez voir que au Congo, par exemple, il est prévu l'accès aux fonctions publiques par voie de concours. Et ici, parce que nous les jeunes, par exemple, ou les jeunes qui sortent des institutions supérieures, c'est la masse, il n'y a pas d'emploi, mais moi je vous informe que chaque année, dans les différents ministères, dans les différents secteurs étatiques, il y a des recrutements clandestins qui se font. C'est-à-dire que
mais pourquoi ça s'est fait en clandestinité?
Voilà, parce que si moi je suis chef de division, si moi je suis secrétaire général, voilà, j'ai un enfant, peut-être qui ou des enfants, des neveux, nièces, cousins qui ont fini, qui ont du diplôme, voilà, je les recrute. Donc le recrutement, ça s'est fait, mais d'une manière clandestine, alors que pour permettre à tous les jeunes de pouvoir accéder aux fonctions publiques ou avoir un emploi au niveau des institutions publiques, en tout cas, il faut passer par la voie de concours. Et si ce concours se faisait annuellement au niveau national, provincial, local, on pourra quand même éradiquer ce fléau, moi j'appelle ça fléau du chômage. Et généralement aussi, vous allez voir que pour nous les garçons, on comprend, on se débrouille, mais pour la jeune fille, c'est catastrophique. Parce que les jeunes filles, lorsqu'ils se présentent même dans certains secteurs, il y a harcèlement sexuel, il y a beaucoup d'abus qui se commettent juste pour que la fille soit engagée. Voilà. Et pour le secteur privé, moi, je pense que la question sur l'expérience, je ne saurais pas reprocher le privé, parce que au niveau du secteur privé, on cherche des personnes expérimentées. Et je suis d'avis avec l'invité qui souhaite et qui c'est ce qui s'est fait. Il faut toujours des formations, donc des stages professionnels. Et la plupart de nos jeunes, mais c'est aujourd'hui, moi, je suis enseignant, je suis assistant, et j'ai toujours dit aux jeunes, les jeunes, quand ils finissent, ne veulent pas se lancer dans les stages professionnels. Voilà le problème. Parce que dans un stage professionnel, peut-être, il y a certains organismes, certaines entreprises qui ne payent rien. Et peut-être les autres, elles donnent un transport à la fin de la journée. Et les jeunes, lorsqu'ils finissent, ils sortent des universités. Ils souhaitent être un grand médecin, un grand avocat, un grand économiste, un grand banquier, sans passer par
les stages professionnels.
Parce que, voilà, c'est encore une entorse. C'est-à-dire qu'on veut escalader les étapes.
Merci, Maître Edmond.
Par le commencement. Voilà.
Merci beaucoup. Tamboué, vous êtes à Béni. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre question, Tamboué?
Oui, je n'ai pas de questions, mais j'ai un peu de préoccupations par rapport à ce sujet. L'emploi devient problème tant aux jeunes que tant aux femmes que nous les hommes, parce que la responsabilité est partagée. Par exemple, vous allez voir ici chez nous, il y avait une époque où si vous êtes seulement un joueur, un grand joueur, on va vous recruter au sein soit des CC ou soit de l'OFIDA, alors que vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas donc des capacités scolaires, vous êtes engagé parce que il y a vos frères, il y a vos cousins qui sont de DG dans des entreprises. Maintenant, je dis, lorsqu'on on déclare l'expérience, où est-ce qu'on va acquérir cette expérience-là si on ne travaille pas? Moi, je pense que lorsqu'on affiche, on affiche les offres d'emploi, là, on met des conditions, il faut être de tel ou de tel autre domaine. Vous avez d'abord des prérequis à l'université, et lorsque vous allez arriver, donc c'est là où vous allez acquérir l'expérience. Moi, j'aimerais à ce que l'État, à côté d'un homme qui a l'expérience, on puisse mettre un jeune universitaire. Et en lisant la loi de la fonction publique à son article 6, je n'ai jamais vu cette condition-là, l'expérience. La condition-là n'existe presque pas. Donc, est-ce que l'invité peut nous dire, peut nous donner l'article qui fixe ces conditions-là? Et les ONG qui viennent dans notre pays, ils doivent travailler conformément à la loi de la République et non se fixer ses propres lois.
D'accord, merci. Merci Tambo et Théophile, vous êtes en Boujimaï. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question, Théophile?
Bon, je voulais juste intervenir à mon humble avis pour promouvoir l'emploi des jeunes et l'autonomisation de la femme. Bon, les raisons en sont multiples. La première des choses, il faut d'abord multiplier les sociétés et entreprises publiques pour permettre à ces jeunes qui viennent de terminer leurs études de trouver l'emploi au temps opportun. Et d'une autre part, ce sont ces jeunes ici qui se font chômeurs à cause de leur incompétence et négligence encore. Puisque vous trouverez un jeune qui, depuis qu'il a terminé les études, lui n'a jamais rédigé aucune lettre de demande d'emploi. Alors, à qui la faute? C'est les jeunes qui se font chômeurs. Deuxièmement, il faut qu'il y ait encore une collaboration entre l'État congolais et les responsables des ONG et entreprises privées pour que l'exigence de la loi de 3 à 5 ans d'expérience soit annulée.
Bien. Oui, merci Théophile. Les autres attendent. Vous êtes tellement nombreux à vouloir participer à cette émission. On va accueillir Olomide Gbadolité. Bonjour.
Oui, bonjour. Je dis Daniel Kachama.
Quelle est votre question, Olomi?
Oui, vraiment, ce qui concerne l'emploi des jeunes, ici, nous avons remarqué plusieurs problèmes pour ce qui se passe.
Ah. Si vous êtes à côté de votre radio, veuillez vous en éloigner ou bien, s'il vous plaît, réduisez les volumes, parce que j'ai un retour à l'antenne et ce n'est pas agréable. Vous allez suivre à partir de votre téléphone.
Merci beaucoup. Ok, j'aimerais juste poser encore la question à l'invité, parce que ici nous avons vu s'il y a une ONG qui recrute les jeunes, par exemple dans le domaine de santé, au lieu de recruter ceux qui ont terminé en santé, mais vous allez voir les logisticiens, sur les avocats, ceux qui n'ont même pas donné le domaine, et pour être engagé encore, on va te demander quelque chose. C'est un peu ce que j'aimerais savoir à l'invité,
mais
je dis Daniel
Cachamon. Voilà, merci. Monsieur Jean-Robert, les questions continuent à pleuvoir. Il y en a tellement par rapport à l'emploi intéresse toujours les jeunes, les auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à toutes les préoccupations soulevées ici?
Alors, merci. Je pense que si on ne répondait pas à monsieur Esaïe Mboyo de Kassai Central, il sera vraiment frustré. Il a beaucoup parlé des vieux et de la question de la retraite des anciens.
Oui.
C'est vrai que c'est un vrai problème pour la fonction publique, mais moi je peux pas répondre à cette question. Moi je suis ici pour sensibiliser surtout les décideurs, à prendre en compte les préoccupations des jeunes sur la question de leur emploi et aussi pour les femmes qui n'arrivent pas ou qui n'ont pas envie de travailler chez quelqu'un d'autre, qui ont envie de monter leurs propres activités génératrices de richesses, de pouvoir le faire. Donc je reviens encore sur cela, parce que c'est pour cette raison que je suis à l'OCAPI, à la radio OCAPI, le 15 avril, nous organisons
un
événement important où nous faisons rencontrer, et c'est toujours notre rôle d'espace de convergence entre d'une part ceux qui sont à la recherche d'une activité lucrative et les qui sont donc des demandeurs d'emploi et les entreprises qui sont à la recherche de compétences. Nous, on est là pour faire rencontrer ces deux entités. Et donc,
ce sera l'unique événement ou bien il y en aura d'autres?
Il y en aura
ça,
d'autres. Bien avant ça, il y en aura d'autres. Donc moi, ma raison d'être, c'est cela. Mais pour répondre maintenant aux différentes questions qui ont été posées, je pense que Maître Edmond, qui est assistant dans un institut supérieur ou à l'université, là où il est, je ne sais pas si c'est à Kananga, je ne me rappelle plus, il a raison.
Il est à Guémena.
Il est à Guémena. Mmh. Il a raison lorsqu'il dit que l'emploi, c'est d'abord l'État congolais. Et je crois qu'on en a parlé, hein, lorsqu'on a parlé de problèmes de graduat, les exigences qui sont demandées lorsqu'on termine les études de graduat, qui bloquent beaucoup de jeunes et qui jettent beaucoup de jeunes. Cette décision jette beaucoup de jeunes dans le chômage. Vraiment,
y compris les jeunes filles, hein.
Garçons comme filles. Mmh. J'en parle par rapport à la réalité, aux réalités que nous vivons au quotidien. Nous nous rencontrons au quotidien, tous les jours, pendant 16 ans maintenant, les demandeurs d'emploi. La plupart d'entre eux s'arrêtent au niveau de graduat. Parce que ils n'ont pas pu accéder au stage professionnel et donc ils ont des difficultés pour continuer leurs études. Et ça, c'est vraiment de la responsabilité de l'État de mettre en place une organisation, de prendre des décisions qui facilitent l'accès au stage de ces jeunes-là. Ça relève d'abord de l'État, et je suis d'accord avec Maître Edmond.
Mais Maître Edmond que certains jeunes eux-mêmes ne veulent pas aller en stage parce que ça ne rapporte rien. Il a déjà son titre d'ingénieur ou de licencié.
Mais vous remarquerez que là aussi, c'est toujours je sais que dans notre pays, on aime bien se singulariser, hein. Ça date pas d'aujourd'hui. C'est depuis toujours. On aime bien se singulariser. Mais si vous regardez ailleurs, ce qui se passe partout ailleurs dans le monde, on rémunère même les gens qui vont faire la formation. Ça veut dire qu'il y a des structures de l'État qu'on appelle peut-être des structures para-étatiques, comme les équivalents de l'ONEM ici. Mmh. Les gens qui sont inscrits à l'ONEM dans d'autres pays, d'Afrique, je parle, en Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. Hein, ça se trouve pas en Europe, à moins que je me trompe. D'autres pays d'Afrique le font. Ça veut dire quand on voit à la fin, l'État a mis en place une organisation qui permet que le demandeur d'emploi qui est en action de formation, il est à la fois en action de formation, mais il gagne quelque chose.
Une formation payante.
C'est une formation rémunérée.
Rémunérée.
Oui.
Voilà.
Et donc, pour les stages, il faut qu'il y ait une réglementation. Moi, je suis une entreprise, et tout à l'heure, vous aviez évoqué très rapidement. Je suis là pour faire le profit. Bon, ça, c'est connu, hein. On critique toutes les entreprises du monde, mais c'est fait pour ça. Parce qu'au départ, moi, je mets mon argent. Et je prends les risques. L'argent que je mets pour créer l'entreprise, c'est pas l'État qui vient me donner l'argent. C'est mon argent à moi et qui me permet de créer l'entreprise. Et quand je crée l'entreprise, c'est avec un objectif de gagner, hein, de faire le profit. Après, il faut que je me retrouve dans un environnement préparé par l'État. Parce que l'État, lui, il va au-delà de la question du profit, et d'ailleurs l'État ne voit pas cette question de profit. L'État est là pour aider à ce que tout le monde, quelle que soit sa situation, faible, qui a terminé les études, qui n'a pas fait les études, que toutes ces personnes-là puissent vivre, avoir ce qu'on appelle en français aujourd'hui un bien-être. Le bien-être, c'est le rôle de l'État.
Donc il revient à l'État d'organiser cette formation-là.
Et donc c'est à l'État de faire en sorte que les jeunes qui partent en stage puissent être rémunérés par également par les entreprises, avoir une rémunération qui leur corresponde, parce qu'on peut pas les payer au même niveau que ceux qui y travaillent, ceux qui sont engagés, je veux dire.
Et c'est de cette façon-là paraît, que ça les me paraît évident. Auront l'expérience.
Et c'est de cette façon que c'est une de manières pour que les jeunes puissent avoir un moyen. L'expérience professionnelle, c'est accéder, avoir déjà l'accès à l'entreprise, que l'entreprise accepte que tu travailles avec elle. Là aussi, l'État peut organiser cela. Organiser les choses sur papier, on peut toujours le faire. Mmh. Mais si c'est pas appliqué, on considère que c'est pas fait.
C'est pas fait, oui.
Ouais. C'est, hein, si vous l'avez c'est fait clair. Et que ça se trouve sur le papier et Kangamanango quelque part,
donc ça veut dire que c'est pas fait.
Ça veut dire que c'est pas fait.
Oui.
Donc il faut que ça soit appliqué. Et d'où donc Maître Edmond parle de recrutement clandestine, dans de recrutement d'une manière clandestine, je voulais dire, recrutement clandestin dans les entreprises à la fonction publique. Moi, je suis pas concerné pour ça. Je peux pas répondre à ces questions. Vous savez, on est dans notre pays. Si je me mets à répondre à ces questions, moi, ça c'est pas mon rôle. Alors le concours. Alors là, je partage à 100%. Son opinion. Le concours, c'est extraordinaire. Mais le concours ne doit pas se faire seulement au niveau de la fonction publique, mais surtout à la fonction publique. Mais le concours est quelque chose d'extraordinaire. Parce que si le concours permet de choisir le meilleur d'entre nous, hein, dans telle branche d'activité, par exemple, si on cherche le meilleur pâtissier du Congo, on va organiser, ou de Kinshasa, ou de Kalemi, de Kolwezi, on va organiser de concours. Et le meilleur va gagner. Et on aura comme ça nos chefs, qu'on les appelle des chefs, hein, avec des toques blancs et blanches. Et donc, c'est quelque chose de super. Je suis vraiment d'accord avec Maître Edmond. En gros, sur tout ce qu'il a relevé. Maintenant, Monsieur Tamboué.
On n'a plus beaucoup de temps. Les temps passent tellement vite. Okay.
Ont compris que c'est pas de ma faute. Hein.
Vous allez
parce que Monsieur Tamboué a soulevé une question importante
de
tutorat. Je pense qu'il a vraiment raison. Le tutorat dans l'entreprise, que ça soit pour la fonction publique ou pour les entreprises privées, et c'est en cela que c'est intéressant, peut vraiment être une vraie solution à la question de l'exigence de l'expérience professionnelle. Je pense que c'est vraiment la voie de sortie à la question à la difficulté de l'expérience professionnelle. Le tutorat.
C'est quoi
monitoring. Le tutorat, ça veut dire que on a suffisamment parlé de nous vieux, hein, les crânes rasés. ça veut dire que les vieux là qui sont dans les entreprises, les anciens qui sont dans les entreprises,
oui, qui peuvent coacher les jeunes, voilà, le mentorat.
Exactement.
Voilà.
Exactement. Mais c'est vraiment une vraie solution. À la sortie.
Alors, pour terminer cette émission, revenons sur l'événement que vous allez organiser le 15 avril. Un dîner autour pour l'emploi des jeunes et l'autonomisation
des
femmes. Donc, vous allez réunir les chefs d'entreprise et les jeunes. C'est un cadre qui permet la rencontre entre les deux parties.
Absolument, absolument.
Et qu'est-ce qu'il faut qu'ils vont y participer? Comment ça va se passer?
On a lancé les invitations, donc on espère que beaucoup vont y répondre, en particulier pour les chefs d'entreprise qui sont super occupés, je sais très bien, mais ils trouvent toujours un temps pour se dégager. Ce sont des gens très bien organisés, hein, voilà, généralement les chefs d'entreprise. Et on a invité également des organismes internationaux, certaines ambassades. On sait qu'il y a des ambassades qui font des actions extraordinaires. L'ambassade de Belgique, je cite pas le nom, hein. Ça peut être l'ambassade de Belgique, de France, du Canada, et bien d'autres, des États-Unis. Ils font des choses extraordinaires pour les jeunes. Et donc, on leur a lancé des invitations, même si l'excellence, monsieur l'ambassadeur lui-même ne peut pas se déplacer. Mais on espère qu'il enverra au moins une délégation qui pourra leur parler avec les jeunes qui seront présents.
Et les jeunes qui sont intéressés par votre structure, qui aimeraient connaître votre structure, est-ce qu'il y a un site internet ou une adresse leur permettre d'avoir assez d'informations?
Écoutez, notre site internet, c'est www.scs-emploi.com. Quand je dis emploi au pluriel, ça veut dire il y a un S à la fin, hein, à la fin de l'emploi.
D'accord.
yannes.com.
Merci, monsieur Jean-Robert, ici Fouabou Koumbé. Mm-hmm. Je rappelle que vous êtes expert en matière d'emploi et chef d'entreprise.
Et donc, vous avez les coordonnées téléphoniques de SCS.
Oui.
Si on vous appelle, on peut entrer en contact avec nous, même par téléphone.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission de La Vie au quotidien. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.